Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce manège, ménage, méninge à trois. On n'a décidément pas choisi encore, si peut-être, je sais pas, enfin on va le savoir peut-être aujourd'hui. Catherine Pimenta à mes côtés, Radio Larzac, Jean-Pierre Alexandre, Radio Temps, Rodez, il faut dire Rodez, on précise que c'est la capitale. À côté de nous, Colline Willinger, qui est service civique à Radio Larzac, on verra si elle a envie d'intervenir ou pas. Alors voilà, on se retrouve tous les mois et on discute un peu de nos territoires. Alors aujourd'hui, on montera sur le plateau, on ira voir... Non, c'est pas le plateau, c'est Radio Larzac qui va parler de Millau, une petite entreprise millavoise, on verra ce que c'est. Jean-Pierre, lui, nous causera d'un nouvel appareil politique qui vient de sortir, il nous expliquera comment le brancher. Et tout de suite, pour se mettre dans les clous et que nous, on a déjà fait des choix musicaux, on va partir pour le CD de la semaine qui était Emel Matlouti d'Alem.
Oh,
Allez, tout le monde au lit. Hein, on dirait presque nounours à la fin.
Non, c'est beau.
Bon, à la demande de Jean-Pierre, donc, figure du printemps arabe, c'est aussi une bête de scène et sa voix rime avec révolution et liberté. Voilà, ouais. Elle est Emel Madlouti et tunisienne.
Il y a quelqu'un qui l'a écrit, ça vaut le coup de le redire.
Voilà, radio. Voilà, redisons-le. Voilà. Bon. On se tourne vers Kat qui, elle, est descendue de son plateau pour aller à la capitale et elle est allée rencontrer une entreprise miyavoise de renommée internationale. C'est quoi ?
Et oui, c'est suffisamment rare pour qu'on en parle dans cette émission, parce que j'aimerais bien savoir si vous en avez des comme ça à Rodez ou à Saint-Afrique. C'est donc l'entreprise Catherine André que je suis allée visiter suite au fait que la dame qui gère cette entreprise, du même nom, Catherine André, donc, a reçu un prix de la part du Conseil régional, le prix Égalité Hommes-Femmes. C'était à ce titre que je suis allée la rencontrer et du coup, ça nous a valu une visite de son entreprise et toute une discussion avec elle. Et je trouvais ça assez intéressant d'aborder ce thème-là. C'est vrai qu'à la radio, on ne parle pas beaucoup des entreprises. Hein. Pourtant, il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent. c'est une façon aussi de fonctionner que de gérer une entreprise. On va peut-être plutôt être sur l'artisanat, etc. Mais bon, il se trouve que Catherine André a démarré aussi par de l'artisanat. Donc si vous ne connaissez pas, je ne sais pas si vous connaissez Catherine André. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ?
Non, moi j'avais découvert.
Voilà, bon. Déjà, vous auriez pu en entendre parler parce que souvent, on en parle dans la presse locale puisque c'est une entreprise qui a reçu plusieurs prix. Bon, je vais tout de suite vous dire quand même de quoi il s'agit parce que vous êtes là, vous posez des questions. Catherine André, c'est une marque de haute couture ou moyenne couture, je ne sais pas comment on peut le dire, mais elle joue dans la cour des grands quand même, hein, et elle est à Millau. Donc cette femme, elle est styliste coloriste spécialisée dans la maille et les jacquards. Et elle a une renommée internationale. Et il se trouve qu'elle a un atelier boutique à Millau, parce qu'on va dire qu'à la base, c'est pour cette raison-là, mais elle va nous expliquer un peu plus dans l'interview que je vais vous faire écouter tout à l'heure. Il se trouve qu'elle a cet atelier boutique rue du Rajol, donc dans une ancienne ganterie, parce que son mari est aveyronnais. Donc ça a démarré de là, elle embauche quand même pas mal de monde. C'est essentiellement du prêt-à-porter féminin. Enfin, prêt-à-porter, c'est peut-être pas le nom, puisqu'on est quand même dans une gamme, certaines gammes, pas forcément données, c'est sûr, hein, mais pas non plus inabordables. C'est très joli, hein, y a des belles teintes. C'est de la maille, c'est toujours de la maille.
Elle fait du tricot.
Elle fait du tricot. Ben, je vous propose de l'écouter, elle va nous expliquer exactement ce qu'elle fait.
On crée des collections, donc on a une marque déposée à mon nom, Catherine André, qui existe depuis la création de la société, depuis 1995. Et donc, depuis 1995, on crée deux collections par an, principalement femmes pour l'instant, bien, il y a un petit peu d'hommes qui pointent à l'horizon. Ce sont des collections à 90% mailles, fabriquées en France. Les 10 autres pourcents sont fabriqués dans des pays où le savoir-faire semble bien compléter les collections. Donc c'est de la broderie en Indonésie, des techniques particulières de maille que je ne trouve pas en France, dans des petits ateliers en Chine, en Pologne pour tout ce qui est chaîne et trame, donc tout ce qui est tissu. Sur une centaine de modèles, il y a une dizaine de modèles en tissu, chaîne et trame, donc tissu de laine viscose en hiver et voile de coton, coton soie en été. Et les t-shirts qui sont faits aussi à l'étranger.
Et ici à Millau, vous employez combien de personnes ?
Alors à Millau, en gros 18, on va dire.
Donc ce sont essentiellement des femmes ?
Eh bien oui, il y a 1, 2, 3, 4, 4 hommes. 4 hommes et voilà. Qu'ils sont largement minoritaires, les pauvres.
Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez reçu le prix Égalité Hommes-Femmes de la région Midi-Pyrénées ?
Eh bien oui, même si c'est pas très... On n'est pas du tout dans la parité, puisque ça penche plutôt du côté des femmes. Aussi, c'est vrai qu'on est une petite entreprise. Le textile, c'est un monde très particulier, où il faut se battre, il faut se serrer les coudes. Donc, s'il n'y a pas de travail d'équipe, on a du mal à progresser. Qui dit femme, dit enfant. Tant de travail n'est pas structuré de la même façon pour un homme. Donc, c'est vrai que la concentration des heures de travail se fait en fonction des emplois du temps des unes et des autres.
Vous essayez d'adapter le travail des femmes par rapport à leur vie éventuellement de mère, c'est ce que vous dites ?
Oui, ben c'est normal, on ne peut pas faire autrement. Donc c'est une personne va devoir prendre un après-midi parce qu'un enfant est malade, une autre, je pense à notre responsable, la personne qui s'occupe du back-office commercial, qui a besoin d'une demi-journée le mercredi. Donc elle s'arrange pour récupérer à un autre moment ou pour venir plus tôt un autre jour de la semaine, etc.
Et vous-même, c'est vous qui êtes la chef d'entreprise, donc c'est peut-être aussi à ce titre-là que vous avez eu cette récompense. Moi, je me demandais justement dans ce milieu la couture, qui est quand même plutôt masculin aussi. On n'est pas que dans un milieu féminin. Si c'était facile, quand on est une femme, de faire avancer un petit peu sa collection, enfin ses collections, comme vous le faites, cette marque Catherine André.
Alors, très franchement, je ne pense pas que ce soit une question, un problème de sexe. Je pense que c'est vraiment une question de volonté et de volonté de travail et de volonté d'y arriver. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. On est à Millau, on n'est pas à Paris, on n'est pas dans une grande métropole, donc j'imagine que... Enfin, je sais que dans les milieux de la mode, c'est pas facile pour les femmes, oui, sans doute. Mais c'est vrai que moi, j'y ai pas été vraiment confrontée, quoi. Sauf, je l'ai vu un petit peu, peut-être le peu de fois où je suis allée dans les pays maghrébins, dans les pays du Maghreb ou en Asie, les premières fois où je suis allée au Japon, mais c'est plus une question de culture. Au Japon, les femmes sont un petit peu transparentes, encore que, je veux dire, dans la vie professionnelle, mais sont elles qui sont garantes de la vie familiale et puis c'est en train de changer. Donc, enfin, franchement, je me creuse la tête, là, c'est vraiment une question de volonté.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a une particularité féminine dans la façon de gérer une entreprise, ou c'est une question de personnalité, qu'on soit un homme ou une femme ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon particulière pour une femme qui serait différente de celle d'un homme ?
Je pense que les femmes sont plus constantes. Elles ont plus de résistance, sont plus des coureuses de fond que les hommes peut-être. Elles sont moins impulsives, plus tolérantes. Mais ça tient au fait d'être une femme, à la personnalité des femmes en général. Le fait d'avoir des enfants, d'être mère de famille, c'est dans les gènes, je crois.
Et vous-même, qu'est-ce qui vous a amené personnellement à ce travail ?
À ce métier ? Le hasard pur. Parce que je suis quelqu'un qui n'avait aucune ambition sortie avec mon bac en poche. Donc je suis partie en fac de langue parce que j'adorais la littérature espagnole, anglaise, etc., mais sans avoir vraiment aucune idée de ce que je pouvais faire avec ça. Enfin, ce qui était clair, c'est que je ne voulais absolument pas enseigner, je ne voulais pas faire de traduction ni d'interprétariat, enfin, ça ne me parlait absolument pas. Donc c'est vraiment le pur fruit du hasard qui a fait que je suis tombée dans cette marmite. Bon, ma grand-mère m'avait appris à tricoter, mais le tricot m'ennuyait souverainement. Je trouvais ça très... Puis j'ai redécouvert ça en partant en Irlande. Après, je devais avoir 18, 19 ans. Je suis partie avec une amie qui venait d'avoir son permis. Et on est parti. On a passé tout le mois d'août en Irlande. Et en Irlande, j'ai découvert la couleur, la lumière. Et j'ai redécouvert la face cachée du textile, je dirais. Avec le textile, grâce à un tissu ou avec une maille, on peut raconter une histoire. La maille, c'est proche de l'écriture, en fait. Hein. L'écriture cursive, c'est proche de la maille. La maille, c'est un jeu de nœuds. Filet de pêcheur, c'est un fil et on fait des nœuds. Et la maille, c'est pareil. Et c'est comme ça que tout a commencé.
C'est de là que vient la maille, dans votre travail.
Oui, absolument. Voilà. Ouais. C'est l'envie de retranscrire la façon dont je perçois la couleur et le jeu de la lumière sur les mélanges de couleurs sur un support. Donc la maille s'est imposée de façon évidente. Plutôt que de faire un carnet de voyage, j'ai tricoté mon voyage en Irlande.
Voilà. Une toute autre question, est-ce que c'est facile d'être implanté ici à Millau, dans l'Aveyron ?
C'est facile parce que on est tranquille. On est dans un cadre quand même assez idyllique, une nature extraordinaire. L'Aveyron, pourquoi pas, parce que c'est une région très dynamique. Les Aveyronnais sont grands voyageurs. Hein. Il y a des Aveyronnais partout, en Argentine, à Paris. L'Aveyron est jumelé avec le département du Hyōgo au Japon. Par contre, la petite ville de Mio, c'est très compliqué de travailler à Mio. De recruter, de trouver des gens qualifiés qui acceptent de rester à Mio. Souvent, c'est un paradoxe d'avoir un poste hautement qualifié et d'habiter Mio. Alors ça va, ça n'est plus notre cas. L'équipe est solide, on a des gens compétents, mais il y a encore pas mal de postes vacants qu'on n'arrive toujours pas à remplir.
C'est des Miyavois qui ne veulent pas rester, qui veulent absolument quitter Mio, ou c'est des gens qui ne veulent pas venir s'installer en
fait. Ce sont des gens qui ne souhaitent pas venir s'installer. Moi, j'ai le problème avec je prends souvent des stagiaires dans des écoles de style parisiennes. Très souvent, on a beaucoup de mal à les faire venir. Et quand elles viennent, elles se plaisent ici, elles sont ravies, elles partent de leur stage vraiment avec plein de choses en poche, plein de compétences. Mais je pense qu'elles ont peur, en ce qui concerne les stagiaires en style, elles ont peur de rester à Millau. C'est normal, hein, on est très centralisé en France, tout se passe à Paris. Donc c'est difficile pour des gens qui commencent une carrière d'envisager d'imaginer, de développer leur vie professionnelle dans une ville de province. Elles n'imaginent pas que, même en étant basées en province, ça n'empêche pas d'aller à Paris toutes les semaines. Je pars à Okinawa jeudi prochain. Voilà, je pars de Millau. Alors bien sûr, il faut faire Millau, Montpellier-Paris, Paris-Hong Kong, Hong Kong-Okinawa, mais...
Elles ont besoin de se retrouver hors réseau, en fait.
Oui. Mmh. Ce qui est faux, parce que je veux dire maintenant... tous les salons se passent à Paris, donc on est obligé de monter à Paris. Et puis bon, avec le net, avec la communication telle qu'elle est développée, les moyens de communication qu'on a maintenant, on est isolé nulle part. Je veux dire, même si on était au fin fond de l'Aubrac, on ne serait pas isolé. C'est juste au niveau des communications, des moyens de transport que c'est compliqué. Le reste... Et puis c'est toujours la même chose, il suffit de vouloir. On trouve toujours le moyen de tisser des liens avec les autres humains de la planète.
Et une dernière question qui se rapprochera plus du thème de départ. Est-ce que vous considérez féministe ?
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Toutes les manifestations du féminisme, entre guillemets, m'agacent profondément. Mais là aussi, parce que je m'estime privilégiée et par la vie, et par mon éducation, par tout ce que j'ai vécu. Donc je ne me suis jamais trouvée dans des situations désespérées, difficiles. J'espère que ça ne m'arrivera jamais. Donc voilà, moi ça ne me parle pas. En ayant créé une entreprise à Millau, dans cette ville un petit peu isolée et pas très vivante, j'ai donné du travail à des femmes qui n'en auraient pas trouvé, ou quelque chose de beaucoup moins enrichissant. Et voilà, donc j'estime que je donne ma part, j'aide les femmes à ma façon. Alors est-ce que c'est du féminisme? Puis je trouve que c'est moche, comme j'aime pas ce mot-là. Il faut trouver autre chose. Solidarité, ça me parle plus.
Catherine André, donc de la marque Catherine André, marque Amio, on peut voir ça comme de la pub hein, si vous voulez, hein, mais non, je trouvais que c'était un bon support à discussion. Bon, elle n'a pas tellement expliqué, donc elle a quand même dit qu'il y avait 18 salariés, Amio même, hein, pour cette marque. Elle a quand même plusieurs boutiques. Donc à Paris, elle en a deux, elle en a, je crois, au Japon, enfin elle a beaucoup, je pense qu'ils ont, je crois, 300 points de vente. Elle a reçu la Légion d'honneur l'année dernière, en juin dernier, de la préfète de l'Aveyron. Hein, parce que, bon, c'est vrai. Bon, moi, ce qui m'a intéressé dans ce sujet, c'était que j'ai trouvé étonnant, pour ne pas dire un peu martien, de découvrir une telle entreprise à Millau. C'est vrai que je la découvre. Hein. Il y en a peut-être qui vont dire, oh, comment ça, tu ne connaissais pas, ça existe depuis 1995. Oui, c'est vrai, bon, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas dans les bons milieux, je ne lis pas toujours la presse locale, hein. Mais de voir une entreprise comme ça, parce qu'il y a de la créativité, il y a de la création, bon, c'est intéressant, je pense, ce qu'ils font, la fabrication quand même française à 80%, enfin... C'est pas que je défends le Made in France, hein, mais...
90 même, apparemment.
80, 90, 90 voilà. Je trouvais ça intéressant. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez des entreprises comme ça, vous, à Saint-Afrique, à Rodez
Attends, ils font du Roquefort ici. Si c'est pas mondialement connu, ça. Non, je rigole. C'est vrai que tu as employé le mot martienne, oui. Martienne, c'est un peu martienne. Mais elle aussi, je l'ai trouvée un peu martienne. Vas-y, Jean-Pierre, tu as une question.
Mais non, c'était juste pour dire que effectivement, c'est assez étonnant parce que pour une femme chef d'entreprise, elle n'a pas le discours du chef d'entreprise traditionnel, hein, unisexe, on va dire. Et on parle très peu de chiffres finalement. Je ne connais même pas son chiffre d'affaires.
Mais tu n'en as pas besoin.
Voilà. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Alors, est-ce que c'est une des spécificités de la gente féminine que de ne pas évoquer les chiffres, d'être beaucoup plus constante, n'est-ce pas, que les hommes, et d'avoir ça dans les gènes ? Alors, attention, parce que là aussi, ça fait un petit peu stéréotype. Hein. Ça voudrait dire qu'il y a vraiment des différences entre les hommes et les femmes, finalement.
Mais des différences, il y en a.
Peut-être,
quand même.
Mais est-ce qu'à ce niveau-là, du caractère, on peut aller jusque-là ? Je ne sais pas.
Non, moi, enfin,
tout ça pour dire qu'elle avait quand même un discours très calme, très posé, et que... On nous a pas asséné, elle ne nous a pas asséné trop de chiffres et qu'elle a l'air fière de ce qu'elle fait. Et finalement, elle assume complètement à la fois son orientation, féministe, même si elle ne veut pas employer le mot. Mais finalement, elle favorise les femmes. Hein, c'est quand même le but dans son entreprise. Elle essaye d'en épouser au maximum, si je puis dire, les caractères et les caractéristiques. Et elle est fière d'être là et d'exporter aussi à l'extérieur, même si par ailleurs... Elle pointe quelques critiques. Oui, c'est une petite ville, etc. Ceci dit, voilà, elle pointe aussi du doigt le centralisme parisien. Donc, elle soulève des choses assez intéressantes. Et pour répondre à la première question, y a-t-il une entreprise équivalente sur le Ruthénois ? Je ne sais pas. Non, a priori comme ça, non, qui serait dirigée par une femme avec cet esprit-là. A priori, non. Et après, voilà.
Alors pour répondre à tes questions, Jean-Pierre, je ne sais pas quel titre elle a exactement au sein de l'entreprise. J'ai bien compris que c'était elle, la créatrice. Après, le président directeur général de l'entreprise, c'est son mari. Donc c'est peut-être plus lui qui gère les chiffres, quoique, je ne suis pas sûre. Hein. Je pense qu'elle sait où elle va, elle sait où, ce qu'elle fait aussi. Bon, moi, je ne l'ai pas non plus interrogée sur les chiffres. Hein. Les chiffres, on les trouve. Voilà, l'entreprise se développe à partir de 1999. Elle connaît une croissance de 40% par an. Elle arrive à 2 millions d'euros en 2003, 2,5 en 2006, etc. 3,7 millions d'euros en 2009. Bon,
moi, c'est vrai. Je ne regrette pas qu'elle ne l'ait pas dit.
Ces chiffres, ça ne me parle pas des masses non plus, n'étant pas dans le milieu de l'entreprise. Mais apparemment, c'est... voilà.
Non, mais au contraire, c'était pour dire justement que c'était un discours un petit peu différent. Peut-être que si tu avais posé les mêmes questions à un chef d'entreprise masculin qui, à un moment donné, aurait pu caser quelques chiffres pour rappeler justement sa puissance. Parce que c'est surtout sur la puissance. Là, on est plus dans la créativité,
oui,
on est plus dans l'organisation de l'entreprise, dans le savoir-faire, etc.
Je continue dans les chiffres, puisqu'on parle de chiffres. Tu as dit à peu près 300 boutiques, 90% de la production française. Elle produit où et à combien de personnes ? Parce que je l'ai loupé quand je suis descendu.
Alors, 300 boutiques, hein, je précise, il y en a qui sont à elle, c'est-à-dire, je crois qu'il y en a 5. Ouais. Et après, c'est des lieux où elle envoie, où elle vend. Ce sont des dépôts.
Elle produit où ?
Après, elle produit où ? Elle produit, il m'a dit, son mari au Puy-en-Velay, il me semble, dans le Massif central.
Ouais.
Et ce qui est beaucoup plus facile pour eux, puisque s'il y a des retours, il y a des va-et-vient qui se font. Voilà, là, par exemple, il nous a fait visiter les ateliers. Ils étaient en train de créer pour la collection été 2013. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire les patrons. On a vu les ateliers, hein, les filles qui travaillaient dessus, des filles stylistes. D'ailleurs, il y avait une fille qui était là, qui est une de ses principales salariées, qui travaille avec elle, qui est styliste et qui était ruthénoise. Et elle se marrait parce qu'elle disait qu'elle espérait pas du tout, Jean-Pierre, elle espérait pas du tout trouver du boulot comme ça dans sa région de naissance.
Elle s'est exilée même à Millau, ce qui est pour, si c'est une ruthénoise de souche, particulièrement compliqué. Parce qu'on parle des échanges à l'extérieur, mais dans le département, ça peut être parfois un peu difficile. Mais ceci dit, oui, c'est une bonne chose qu'il y ait des ruthénois qui viennent à Millau. Hein. Je suis pour les échanges.
Après, je ne sais pas ce que vous avez pensé de tout ce discours par rapport aux femmes. Est-ce qu'il y a une spécificité féminine? Donc, toi, tu as souligné...
La façon dont elle parle de son entreprise, même très poétique, on pourrait presque dire, quand elle évoque ce voyage en Irlande, comment elle a découvert cette maille et la façon de la travailler, et que finalement, ce n'était pas aussi rébarbatif qu'elle pensait. J'ai trouvé ça, oui, assez intéressant, et pour le coup, là aussi, peut-être spécifique à un discours féminin. Mais bon... Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est réellement un discours féminin ou est-ce que c'est le fait de fabriquer ce genre de choses qui fait qu'on a ce discours-là? Je ne sais pas, je connais peu le milieu de la mode aussi. Ce que je constate quand même, c'est qu'à Millau, il y a eu une tradition pendant longtemps, la fameuse tradition gantière, d'entreprise qui existe toujours. Il n'y en a plus que deux d'ailleurs, je crois, qui travaillent à un haut niveau dans la haute couture. Donc il y a quand même des connexions, même si là on n'est pas dans le travail de la peau, hein, on n'est pas dans le travail du gant, mais il y a quand même des connexions comme ça avec des milieux de mode, des boutiques parisiennes, des ateliers parisiens, ça existe depuis longtemps, hein, je veux dire, donc c'est pas si étonnant que ça quand même, hein, peut-être cette connexion pour moi.
Peut-être ce qui nous reste, vu le prix de la main-d'œuvre française, de pouvoir avoir des marchés dans les hautes sphères, dans la mode, c'est vrai qu'on peut se permettre d'avoir un prix de revient relativement élevé.
Oui, les gens sont prêts à
mettre. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé, non, comme tu dis, j'ai pas forcément trouvé quelque chose de très féminin, si ce n'est que le tricot. Hein, a priori, il y a beaucoup de femmes qui tricotent. Elle aurait monté une entreprise de vélo Solex, là, ça m'aurait peut-être fait tilter, mais le tricot, la maille, et puis découvrir la maille en faisant un voyage, oui.
Au niveau quand même de l'organisation, pour en revenir sur ce qu'elle disait par rapport donc aux femmes, j'ai l'impression qu'elle prend en compte, pour le coup, le rythme différent, donc des femmes qui viennent d'avoir un enfant,
ou
qui ont des enfants à s'occuper.
Voilà. Le prix Midi-Pyrénées, voilà.
C'était la question que je voulais te poser aussi tout à l'heure, de nous rappeler peut-être quel était le contexte, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est exactement ce prix organisé par la région. Est-ce qu'on peut en dire deux mots ou pas?
Donc, pas spécialement. Prix, il y a eu,
je ne sais pas combien de lauréats
ont été, comme il y en a qui se sont présentés à ce concours et que la région a choisi. Je te le dirai peut-être.
On les découvrira peut-être bientôt sur nos antennes.
On va les découvrir, oui, tout à fait. On va découvrir ces principaux lauréats qui, on sauve la mise, c'est ça que tu veux dire. Oh là là.
Le 8 mars. Journée de la femme. Non, bon, moi, il y a quelque chose qui m'a. Bon, je me choque plus pour ce genre de choses quand même, mais bon, c'est vrai que le fait de prendre en compte les besoins de ses salariés, de s'organiser par rapport à leurs enfants, c'est très sympa de sa part. Il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit des hommes ou des femmes. J'ai déjà entendu des femmes avoir des discours horribles par rapport à leurs salariés féminines sur le fait que les enfants sont malades et que leurs salariés doivent s'absenter ou des choses comme ça. Donc ça, elle n'est pas obligée de le faire, effectivement. Après, dire que c'est dans les gènes, c'est toujours un petit peu gênant. Hein,
c'est le cas de dire bravo, de bravo Catherine.
Ouais, c'était fait exprès. Et bon, le fait qu'elle se dise pas féministe, qu'elle se revendique pas féministe, ça je la comprends tout à fait. Moi-même, je me prétends pas féministe, j'aime pas ce nom-là non plus. Je pense qu'il y a eu aussi, où il y a encore des fois trop de dérives par rapport à tout ça, même si je reconnais que dans les années 70, il a bien fallu mettre un grand coup de pied dans la fourmilière parce que. C'est assez grave. Bon, hors micro, elle nous a quand même dit qu'elle trouvait ça scandaleux, les écarts de salaire hommes-femmes, des choses
encore
comme ça.
Encore 20%, hein, le signal, hein, encore 20% hein, sur l'ensemble des salaires hein, entre les hommes et les femmes.
Ceci dit, voilà, bon, je me posais des questions sur cette façon de se dire j'ai donné du travail intéressant à des femmes à Millau qui n'en auraient peut-être pas trouvé un aussi intéressant. Je sais pas.
Un peu de condescendance dans.
Un petit côté comme ça qui m'a un peu gênée. Qui m'a peut-être pas gênée sur le moment quand j'étais avec elle. C'est une femme très, très sympathique qui nous a super bien accueillis. Mais après, au montage, quand j'ai réécouté ça, je me suis dit, ça me fait penser des fois un peu colonialisme quand on dit, ouais, je vais en Afrique.
Je rends service.
Oui, c'est vrai, j'ai des boys, mais bon, en même temps, avec moi, ils sont bien traités. Non, c'est un peu exagéré, j'avoue. Mais bon. Mais comme tu dis, condescendance.
Quelles sont les raisons précises, fondamentales, est-ce qu'elle l'a évoqué, ça m'a peut-être échappé, mais pour lesquelles l'entreprise est vraiment installée à Millau?
Ça, c'est... Je ne sais pas si on a les vraies raisons. Parce que moi, ce que je pourrais dire, c'est que c'est assumé, mais pas revendiqué. C'est-à-dire que ni de la part de son mari, ni de sa part à elle, il y a eu ce discours, on tient à être là parce qu'on est d'ici, on veut que l'Aveyron, qu'il y ait des entreprises gagnantes en Aveyron. Enfin, il n'y a pas eu du tout ce discours-là. Ils ont admis que ce n'était pas forcément plus facile. Après, est-ce qu'il y a des facilités, des choses qui n'ont pas été dites? Ça, je ne sais pas. Je pense que par rapport à avoir des locaux, ils ont quand même une grosse surface.
Les livraisons au Japon, ça ne doit pas être simple.
Ah, il y a une grosse surface de locaux à Millau. Je pense que l'équivalent à Paris, à mon avis, faut trouver sûrement déjà, et puis il faut les payer. Donc c'est sûr qu'il doit y avoir des questions de coûts, même si en même temps, ça crée d'autres problèmes.
De recrutement notamment. Hein.
Voilà, de recrutement. Il y a des gens qui ont du mal à venir ici.
Mais alors, ce qui est bien quand même, bon, elle n'est pas, évidemment, j'allais dire, milite pas spécialement pour rappeler qu'elle est dans cette région en Aveyron, etc. Mais enfin, elle pointe aussi du doigt le gentil petit centralisme français, donc parisien, où évidemment beaucoup d'écoles, de spécialistes, de stylistes se retrouvent. Et finalement, tous ces gens qui sont à Paris, qui ne sont pas forcément des Parisiens, ils ont du mal à revenir, les pauvres choux, ici en Aveyron. C'est dommage, hein, j'allais dire. Il y a un gros travail, je crois, à faire de ce côté-là. J'ai vu que le Conseil général, un peu dans le même ordre d'idée, draguait beaucoup les internes des hôpitaux pour qu'il y ait des médecins dans notre département. On va même jusqu'à leur offrir une prime d'installation, etc. Alors, est-ce qu'il faut faire pareil dans toutes les entreprises, partout, pour faire revenir les gens? Non, je trouve ça un peu dommage, voilà. Mais c'est ce qu'elle pointe, elle y peut rien, elle le déplore même, en fait, hein, surtout pour elle-même, puisque son entreprise prise en pâtie, je suppose, de temps en temps pour trouver vraiment de la main-d'œuvre qualifiée. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi créer ici une école de stylistes
à Millau?
Bien sûr.
Non, mais c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant. J'ai trouvé que c'est leur initiative, enfin, cette entreprise ici à Millau, je trouve ça bien, quoi. Il faudrait qu'il y ait d'autres gens qui osent, parce que c'est un peu osé quelque part quand même de mener une entreprise comme ça ici, j'imagine. Hein. J'imagine.
Il y en a d'autres, je suppose, dans l'Aveyron, on va les chercher.
On va les chercher pour la prochaine émission.
Exactement.
On va faire une rubrique « Ma petite entreprise connaît pas la crise ».
Je pense que ça doit être intéressant pour elle économiquement.
Oui, certainement, voilà. Bien sûr. Elle est poète, mais elle a les pieds sur terre, je pense.
Voilà, que ce soit à Millau ou ailleurs, je pense que ce n'est pas un problème pour elle.
Oui, mais Manu, les salariés sont contents aussi, femmes qui travaillent.
Oui. Mais bon, elle...
c'est un emploi de Millau.
Le travail est arrivé, ce n'est pas parce qu'il y avait des salariés à tel endroit qu'elle est venue. De toute façon, on les paie pareil ici ou à Paris. Non?
Voilà. Chacun se fera son idée.
Allez, on va monter sur les arbres, on va trouver des singes et des bad boys aussi.
Because I chose to do play the mad boys. Should realize that they have no control. All of them girls you'll be playing with. All of the little things of life that you say that you should do. But they aren't talking better than one of you, no. Open the mind and mind may just win, be with you. Open the mind and mind may then master cool. Like it all them DJ pretenders that was of John them. Oh no no no, wa-da-da-da-da, cause the roots in my culture. Wa-da-da-da-da, no no. Wa-da-da-da-da, cause the reggae forever. Wa-da-da-da-da, let's go. Everybody has a selfless selfishness. I'm getting now ahead. Who would say that woman could be root or believer? Let the devil hear you and change it to one. Responsible of all the madness. Responsible of the human stress. Have a look around and look inside and realize that you have no respect for you. I am never. You bring your boyfriend over Rachel. I let go. I just take my people with respect. Oh, though your mouth is ready to indulge you, they could be poison full of them bad vibrations. Building up with your total degradation. You have to give you for your unthinkable behavior. No more, no more, Rasta will save ya. Singing about the lassie galley that he tasted. How could you like some music when they said? We shall forgive you for your unthinkable behavior. No more, no more, Rasta will save ya. No more, no more, Rasta will save ya. I never want more. What a night, cause the se butse ma colcia. Wa la 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 ho. Wa la 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 casa vege poeta. Wa la 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 ho. My culture, my culture, no.
Bad Boys, Les Monkey Tree.
Eh ben, c'est
on
bien
redescend
ça.
De l'arbre, on laisse les singes
ils
là-haut.
Où les Monkey Tree vont pas être à Saint-Saturnin de l'Aisne, là, bientôt, je crois.
Si, c'est ça. C'est hein exactement
c'est
ça. Sauf qu'on ne commençait pas quand est cette émission m'a été diffusée.
Oh, écoutez,
du coup,
on
c'est
peut...
pour samedi, je crois. Et voilà, que samedi, le 25. On n'aura pas encore.
Ah, écoutez, si moi, l'émission est diffusée le 25, donc ce sera samedi à 18h.
Un match de rugby.
Alors, il n'y a pas de match de rugby, justement, puisque tous ont été reportés, donc on le fait samedi. Voilà.
C'est bon, on revient ?
On revient.
Jean-Pierre, tu te dissipes.
Mais oui.
On va tout savoir sur les hommes politiques. Disent-ils la vérité ? Et tu as mis au point, non, c'est pas toi, hein, le véritomètre, c'est pas toi qui l'as fait.
Ah non, non, non. Mais par contre, vous pouvez peut-être imaginer que tous les candidats à la présidentielle, mais ce serait aussi valable pour d'autres élections, hein, vous inquiétez pas, donc on peut le ramener au local aussi, soient soumis, effectivement, Manu, à un détecteur de mensonges lorsqu'ils font une déclaration publique. Donc, ils font une déclaration à nos micros, à la radio, à la télé, ou alors dans les journaux. Alors, qu'est-ce qui se passerait s'ils étaient passés comme ça au détecteur de mensonges ? Bah, écoutez, plutôt, j'ai pris la voix des plus connus. Non, ce ne sont pas mes candidats préférés. Hein, n'y voyez là aucun choix politique à l'avance. J'essaie de faire un petit mélange. Voilà ce que ça pourrait donner au détecteur.
Il y a 2 millions de logements vacants dans la région parisienne.
Nous créerons davantage de centres d'éducation renforcés. Il y en a aujourd'hui 40.
Depuis 10 ans que nous avons l'euro, la zone euro a la croissance la plus faible du monde.
80 000 jeunes ont été cette année, enfin l'année dernière, pris en charge.
Voilà, donc c'est pas le bruit du France qui rentrerait au port de Marseille.
T'as les réponses au moins.
Bien sûr que j'ai les réponses, mais on va pas tous les passer parce que c'est des vieux discours, on va pas refaire le truc. Mais n'empêche qu'à chaque fois, bien c'était faux, bien sûr. Donc vous avez entendu le détecteur qui s'est déclenché. Bon, évidemment, ce sont des déclarations qui à chaque fois étaient des mensonges. De temps en temps, il y a aussi quelques vérités. Alors vous allez me dire, oui, mais comment tout ça...
Des mensonges ou des erreurs peut-être ?
Ou des erreurs, si vous voulez. Alors, bon, on est aujourd'hui quand même, il faut le savoir, alors qu'on est à quelques semaines de la présidentielle, on est quasiment capable de savoir, de faire fonctionner ce détecteur de mensonges quasi instantanément. Évidemment, on pourrait se dire, oui, mais alors, par exemple, si les journalistes faisaient leur boulot, on n'aurait pas besoin d'inventer ce genre de choses. Enfin, s'ils faisaient leur boulot, oui, mais vous vous rendez compte, quand on vous assène des chiffres, 1, bon, ça va, 2, 3, 4, est-ce qu'on est capable à chaque fois de surenchérir ? Est-ce qu'on est capable de dire, ah non, monsieur le président, ce n'est pas vrai ce que vous dites là. En fait, le chiffre, ce n'est pas 40, c'est 35. Bon, très difficile. Donc, heureusement, il existe aujourd'hui une sorte de machine. En fait, c'est un logiciel qui passe au crible tous les propos que l'on aura sélectionnés. Cette machine, elle s'appelle le véritomètre. Il s'agit de la nouvelle arme secrète qui a été mise au point par
Dassault Industries.
Pas du tout. Par un site internet que l'on connaît bien, qui s'appelle ovni.fr, enfin, que l'on connaît bien si on veut s'informer de façon, disons, un petit peu décalée, hein, en tout cas en dehors des médias dominants.
Ovni, information bien documentée,
exactement.
Bien sourcée. Ouais.
Alors, ovni.fr, ça s'écrit, je le précise, O-W, c'est pas un V, hein, c'est O-W-N-I, et aussi e-télévision, qui a repris le concept, en fait, en disant, tiens, ça c'est intéressant, on va s'associer avec OVNI, et on va faire régulièrement une petite rubrique à partir de ce véritomètre. Alors, le discours politique est passé donc à ce véritable vérificateur informatique. Alors, Est-ce que c'est un gadget? Bon, c'est la première question qu'on pourrait se poser. Est-ce que c'est un outil sérieux? En tout cas, il s'agit de la première web application de ce qu'on appelle le fact-checking. Fact-checking, what is it? Eh bien, c'est le fait, c'est qu'à le dire, fact, de vérifier tous les faits et gestes des hommes politiques en temps réel. Et on peut l'appliquer, donc après, aujourd'hui, ce fameux fact-checking, donc ce véritomètre en français, après chaque meeting, après chaque débat télévisé, après chaque débat à la radio, etc., etc. Alors, Manu, une petite question peut-être?
Oui, tu l'as vu fonctionner, c'est-à-dire qu'il écoute. Parce que ça m'inquiète. Hein,
qui écoute déjà, un logiciel qui écoute.
C'est un logiciel qui analyse le son et qui va vérifier dans une base de données si ce qui est annoncé est vrai ou pas.
Oui, tout à fait.
Et t'étais fou de moi ou quoi?
Non, pas du tout. Vous allez pouvoir aller directement sur le site, constater comment il fonctionne, puisque vous allez avoir d'un côté le discours qui aura été retranscrit. Bon, en général, la plupart des discours, il faut le savoir, c'est un secret pour personne. Par exemple, on en a à l'avance, hein, des discours d'hommes politiques, même dans nos radios. Donc, fameux site, ces journalistes ont, avant tout le monde, le discours. La plupart des discours, sauf ceux qui sont vraiment improvisés. Mais à l'heure actuelle, il n'y en a pas beaucoup qui sont réellement improvisés. Donc, ils peuvent être passés même au tamis un petit peu avant. Sauf qu'on dit...
Déjà, c'est plus simple.
En journalisme, on dit, attention, il y a embargo. Donc, normalement, on n'est pas censé sortir le discours avant qu'il ait été prononcé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait faire un petit peu... ça pourrait faire des ordres. Et puis, autre chose quand même. On n'analyse pas le fond. On n'analyse pas la philosophie, on n'analyse pas l'idéologie. Non, on analyse en fait les chiffres. Par exemple, si quelqu'un dit « Ah non, moi je connais pas Dodo la Saumure », ben, le véritomètre, il sera incapable de dire si je connaissais ou pas Dodo la Saumure. Hein. Donc, on s'appuie quand même
sur... C'est qui Dodo la Saumure?
C'est son voisin.
Je vois que Catherine ne suit pas les affaires
d'État.
De DSK et autres. Non, on va peut-être pas rentrer.
On t'en parlera tout à l'heure, Dodo.
Mais bon, dans les discours aujourd'hui, vous l'avez remarqué, les hommes politiques assènent des chiffres de plus en plus. Ça dure depuis des années. Alors évidemment, vous n'avez pas tout de suite l'info sous la main. Vous ne pouvez pas répliquer. Sauf que là, on va pouvoir bien sûr vérifier tout de suite en temps réel. Enfin, en temps réel à peu près. Exemple avec un entretien accordé par le chef de l'État au FIDMAG. Il y a une quinzaine de jours, Nicolas Sarkozy, oui c'est lui, y affirme notamment que chaque année, 30 milliards d'euros sont consacrés à la formation professionnelle.
C'est ça que tu allais faire?
Mais alors, il n'était pas candidat il y a 15 jours.
Alors, c'est vrai.
C'est faux.
Alors, il a été passé quand même au véritomètre, parce que candidat ou pas, en fait il l'est. Donc ils ont bien fait de le faire en prévention. Donc, on doute du chiffre, et bien pourtant, ben c'est vrai. En fait, il a dit, pour une fois, il a dit la vérité. Sauf que ce sont des chiffres qui datent de 2009. Donc, le véritomètre, il va dire, c'est vrai, c'est faux, mais en fait, il va y avoir un entre-deux, peut-être, à vérifier. Donc, il n'est pas si manichéen que ça. Ce n'est pas une machine qui va dire, c'est tout blanc, c'est tout noir. Il va dire, ah, attention, ok, ce chiffre est vrai, mais ça ne date pas de cette année. Il va falloir vérifier.
Il est presque humain, ce véritomètre.
Bah oui.
On n'arrête pas le progrès.
Il a été fait par des humains, en tout cas. Autre affirmation, moins de 10% des demandeurs d'emploi sont en formation professionnelle. Vrai ou faux? Alors, ça, c'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy dans l'entretien.
Et tu veux qu'on bugle ou pas? C'est ça. Oh, j'en sais rien. Combien tu as dit?
Moins de 10% des demandeurs d'emploi sont aujourd'hui... Vous savez que quand même, l'emploi et la formation professionnelle sont au cœur des débats là, en ce moment, hein, entre les principaux candidats à la présidentielle. Donc, ces chiffres vont nous être assénés et réassénés encore une fois. Alors, vrai ou faux? Moins de 10%
en formation professionnelle. Sans
en formation professionnelle. Vrai ou faux?
Ben, allume le truc pour voir, il va nous le dire.
Allez, attention. Non, c'est faux. Voilà. Donc, par exemple, c'est une contre-vérité qui a été dite par le chef de l'État, quand même.
Tu ne vas pas nous en faire 50 comme ça.
Non. Bon, à un autre moment, il nous parle. Non, mais c'est pour montrer un petit peu la difficulté aussi quand un homme politique s'adresse à vous.
On le mette en marche, le truc, et il nous l'aurait dit.
Ah ben, on peut le mettre en marche. Le seul petit souci, c'est qu'on ne verra que des images. Donc, pour nos auditeurs, ça va être un petit peu compliqué.
Il ne fait pas le klaxon, non?
Il ne fait pas bip.
Non, mais par contre, j'invite les auditeurs, au moment même où ils entendent cette émission, à se brancher en même temps s'ils le peuvent.
Pour vérifier si ce que tu dis est vrai ou faux.
Exactement. Et d'être en même temps, donc sur ovni.fr. Alors, on a demandé également au véritomètre ce qu'il pensait de l'ensemble du discours, parce qu'après, il va faire une moyenne, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est le classement qu'il va y avoir à la sortie de l'ensemble donc, des candidats. Donc, vous retrouverez à la fois l'analyse par thème de chaque candidat, et ensuite vous aurez un résultat global sur la crédibilité de chaque candidat en fonction de ce qu'ils ont dit jusque-là, c'est-à-dire jusqu'au jour J où vous regardez la fameuse grille.
Mais alors, uniquement sur des chiffres.
Oui. Uniquement sur des chiffres, évidemment.
Pour et le si reste, la crédibilité ne se jouait alors, que sur des chiffres.
Non, mais heureusement.
Je ne vais pas casser ton truc, hein, Jean-Pierre.
Non, mais heureusement.
Non, c'est un gadget, mais c'est sympa.
C'est un gadget, mais quand même, c'est pas tout à fait un gadget, encore une fois, puisque on a analysé que plus de 80% des discours actuellement politiques étaient des chiffres. Donc. Voilà, que reste-t-il ? Et c'est là qu'on peut se poser la question. C'est ça qui est intéressant aussi avec ce petit véritomètre. C'est que finalement, qu'est-ce qui reste de la part réelle de la pensée ? Est-ce qu'on peut d'ailleurs oser encore ce mot ? De la pensée de chaque candidat, de sa philosophie, oh là là, encore un gros mot, de l'idéologie qu'il défend réellement, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, par contre-coup, on s'aperçoit qu'il ne reste pas grand-chose. Donc, on est vraiment dans un monde de l'économie. L'économie, comme disait Jospin, a transformé le monde, oui, mais en monde de l'économie. C'est bien tout ce qui reste à quasiment tous les candidats.
Alors, devrais faire la politique, Jean-Pierre.
Peut-être pas, hein, parce que je ne sais pas si au véritomètre, je serais très très fort. Bon, résultat, par exemple pour Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, on est à 52% de crédibilité. Voilà, ça veut dire que le chef de l'État, celui qui brigue un nouveau mandat, eh bien, il dit une fois sur deux, il dit la vérité.
C'est bien des chiffres à la française, ça.
Une fois sur deux.
52%, tu vas m'en sortir un autre, il est à 49, c'est ça ?
Alors, si vous regardez maintenant, oui. Regardez le véritomètre.
Oula,
allez-y.
Là, on est...
Alors, aujourd'hui, nous sommes le 23 février, je le précise. Donc, je viens de regarder.
On n'a pas de date, voyons.
Je viens de regarder le véritomètre et on est à 67,2% de crédibilité. Pour qui ? Qui est le premier ? Qui est le plus crédible ?
Maurice, donc, c'est Maurice.
C'est Maurice, voilà. Donc, c'est François. Ensuite, en deuxième position, on trouve Eva Joly. Ensuite, il y a Mélenchon. Et puis, bonne dernière, je ne vais pas tous les faire, hein, mais bonne dernière, c'est
de Maurice.
Marine Le Pen.
Marine Le Pen. Voilà,
non, mais attends.
Exactement.
Ils ne s'expriment pas tous selon la même durée de temps.
Non, mais ça, c'est peu importe. C'est une.
Mais plus tu parles, plus tu causes, plus tu as de chances de te planter.
Oui, mais c'est au prorata. C'est-à-dire.
Eh oui, mais bon.
Ah oui, mais c'est comme. Je veux dire, dans n'importe quelle élection, il faut évidemment faire une moyenne. Hein, on est d'accord.
Si tu donnes peu de chiffres, mais presque tous faux, ça ne va pas être la même chose que si tu donnes beaucoup de chiffres où il y en a des faux.
C'est vrai. Alors, je vous laisse analyser. C'est bien parce que ça fait partir le débat. Moi, je ne dis pas que c'est une panacée, ni que c'est absolument l'arme qu'il faut absolument...
Ce qu'il dit pas, c'est qu'il est actionnaire du... Non.
Ah, c'est toi qui le vends, le véritomètre, c'est ça, en fait.
Bon, écoutez, je vous propose, puisque j'ai assez parlé, d'écouter les concepteurs, si vous voulez bien.
Ah, voilà.
Bah oui, on va écouter Sylvain Lapoix, il est journaliste à ovni.fr, c'est lui qui a mis au point cette petite grille indiciaire de décryptage, donc véritomètre, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et vous allez également entendre là-dessus, puisqu'il l'a beaucoup utilisé, le rédacteur en chef, enfin un des rédacteurs en chef de iTélé, qui s'appelle Fabrice Angiotti.
Notre but, c'est de déshabiller les candidats de leur armure de chiffres, de façon à voir nu qu'est-ce qu'ils ont à proposer en termes de politique, en termes de vrai programme, le fond du propos, leur projet de société. Est-ce qu'ils utilisent des chiffres que pour blouser les électeurs, ou est-ce qu'ils utilisent des chiffres parce qu'ils y ont trouvé des éléments qui les amenaient à avoir des conclusions qui pouvaient porter vers une politique plutôt qu'une autre ?
On donne aussi la possibilité aux citoyens de faire leur propre vérification. C'est-à-dire qu'en temps réel, quand on est devant sa télé et qu'on écoute le candidat Nicolas Sarkozy, le candidat François Hollande, la candidate Marine Le Pen, et que ces candidats donnent des chiffres, par exemple, et les martèlent, eh bien, on a la possibilité d'aller enfin voir, et de manière assez simple, finalement, pédagogique, si ce qu'ils disent est vrai ou pas.
Notre but, c'est précisément d'aider à les électeurs, les citoyens, à mieux comprendre les enjeux tels qu'ils se posent, et surtout à parler plus de politique et moins de chiffres.
Alors vous allez remercier le radio, hein, puisque c'est grâce au radio que j'ai pu monter à la capitale, comme on dit, parce que j'y vais pas tous les jours, pour interroger ces gens-là. Ils ne sont pas sur Odesse, hein, comme vous pouvez vous l'imaginer. Alors, est-ce que les hommes politiques vont avoir peur de ce fameux véritomètre ? Est-ce que c'est un outil au service de la démocratie ? Est-ce que c'est un simple gadget marketing pour faire fonctionner un site ou une chaîne de télévision d'infos en continu ? Bon, c'est à vous de voir. En même temps, si les hommes politiques ne peuvent plus dire n'importe quoi, ce qu'ils font les trois quarts du temps, il n'y aura plus de politique. Hein, j'ai un peu l'impression que ça va un peu tuer finalement. Parce que si on s'en réfère donc, à son intérêt, bah, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder leur véritomètre et on se dire, ah bah là j'ai dit des bêtises, là j'ai...
Non. Ah, ce matin, alors Maurice, combien j'ai fait ce matin, on vérifie le mètre, voilà. Et paf, ça
est-ce
va
que,
être un
est-ce corps, que ça va être ça ou est-ce que ça va rester voilà, dans la case d'une invention bien jolie avant les présidentielles, c'était bien, mais bon.
C'est un nouveau médiamétrie pour la politique.
Bon, alors c'est pas vraiment super scientifique, hein, faut pas non plus, encore une fois, mais voter n'est pas scientifique non plus. Hein. Et ce que dit, je crois, c'est notre ami Sylvain Lapoix, c'est qu'en réalité... Le roi est nu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous raconte des fadaises, pourquoi on vous a donné un chiffre faux? Est-ce que c'était intentionnel? Et puis pourquoi on a donné ce chiffre? Pourquoi pas un autre? Finalement, ce qui est intéressant, c'est ce qui est en creux, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas devant. Voilà, c'est un petit peu pour ça que ce véritomètre, je crois, a été mis au point par ses concepteurs. On pourrait faire ça, bien sûr, à chaque interview. On pourrait le faire ici, localement, aussi. Ça serait particulièrement intéressant. Je n'ai pas eu le temps, c'est dommage, mais je promets d'essayer de le faire d'ici la fin du mois de juin, sur les hommes politiques locaux, puisque aussi ils racontent des bêtises, beaucoup, parfois. Voilà, ouais. Et puis alors, juste un autre truc pour dire, j'ai été jusqu'au bout, j'ai regardé la liste. Ah, bizarre, il n'y a que 6 candidats. Eh oui, ça c'est un petit peu le...
Hein. Ah, et les autres,
et de quoi? Les autres n'existent pas.
N'existent pas ou ne sont pas analysés, c'est ça?
Et ils ne sont pas analysés parce que tout simplement, il faudrait évidemment un petit peu plus de temps et de monde.
Ces jours-ci, il y en a une Pampé qui se sont désistées, donc du coup... Voilà. Bon, mais merci Jean-Pierre. Ménage, c'est prévu ménage sur Radio Temps, Rodez, quand?
Alors, ce sera le samedi 25 février à 18h en première diffusion et nous rediffusons le soir.
Catherine, tu...
Moi, je botte en touche, j'en sais rien.
Tu t'en rappelles pas?
Disons qu'on a raté, on peut le dire, hein, on a raté l'émission de février pour cause d'intempéries.
Donc, du coup, tu diffuses plus.
Donc, si, tout à fait, mais depuis, je sais plus quand est-ce qu'on diffuse la prochaine et j'ai oublié
c'est
de m'en renseigner avant.
C'est pas grave, mais écoutez, vous vous renseignerez sur le site de Radio Larzac et
voilà,
tout sera explicité dessus.
Exactement.
Sur Radio Saint-Taf, lundi 9h, mercredi 19h, donc tout le monde est au courant. Le prochain qui arrive, hein. Voilà. Le prochain qui arrive, personne ne peut savoir lequel c'est le prochain qui arrive.
Non, ça sera la surprise.
Voilà, c'est une surprise. Allez sur le site et puis vous trouverez dessus la date de la prochaine diffusion de ce Ménage à 3. Merci à tous les trois, merci à Colline. Elle a été très bavarde, mais attentive. Voilà, on se retrouve dans un mois. Et ben, retournez dans vos contrées dégelées. Je
lointaine.
Pense que quand on se reverra, ça sera le printemps. Non, mais on peut envoyer le
générique.
Petit fond musical qui va très bien comme générique.
Voilà, sinon on ne traitera pas donc, de politique sur notre antenne, hein, je vous le signale. On ne parlera pas des élections. Je ne sais pas ce que vous ferez, vous, sur Radio Saint-Afrique.
Ah oui, c'est vrai que vous vouliez en parler.
Oui, mais Manu,
il nous reste 2 minutes.
C'est vrai que c'était un petit peu rapide. J'avais plein de trucs à dire là sur son véritomètre.
C'est vrai, tu voulais...
Et tout à coup...
Alors vas-y, mais dis-le.
On a 2 minutes.
Non, mais je ne vais pas relancer le débat sur le véritomètre. Maintenant, ça y est, c'est passé. Mais c'est vrai que ça aurait pu être l'occasion aussi qu'on dise chacun à nos radios, enfin à nos auditeurs, ce qu'on va faire de ces élections présidentielles sur nos antennes. Bon, nous, on a déjà eu l'occasion de le dire sur Radio Larzac, c'est vrai qu'on ne va pas en parler.
Ouais, c'est parfait, voilà, c'est bon. Jean-Pierre, toi,
parler,
tu vas
tout simplement.
On ne va pas en parler non plus.
Non plus, nous non plus.
Voilà,
allez, hop. Donc,
voilà c'était juste pour... Non, mais ce serait sympa d'expliquer pourquoi un petit peu. Non, je pense qu'on va déjà en parler beaucoup ailleurs. Ensuite, c'est vrai que les débats politiques, c'est peut-être pas au moment des élections qui sont les plus intéressants. Enfin, les questions politiques de fond, je trouve que c'est pas au moment où il y a des élections que c'est les plus intéressantes. Et c'est pas non plus toujours les hommes politiques qui sont les plus intéressants pour en parler.
Nous, le sujet de débat, aussi... c'était plutôt de savoir, d'expliquer, on n'est pas quand même des savants, mais au moins de redonner les bases aux gens de ce qu'est, je sais pas, le socialisme, le capitalisme, le communisme, ce que c'est qu'une élection, voilà, ce que c'est qu'une république. Hein, personne ne le sait.
On aurait dû commencer par ça. Bon, le fera la prochaine fois.
Allez, et voilà, on en fera.
Allez, ménagez-vous.
En gros, pas de politique politicienne sur nos radios.
Oui.
C'est un peu ça, l'idée.
Mm-hmm. En revanche, de la vraie politique, oui.
Allez, on se retrouve pour le printemps, c'est ça? Allez.